Nous allons continuer dans notre série d'études de l'évangile de Marc. Et donc, Marc chapitre 1, et le passage que nous allons lire, c'est les versets 29 jusqu'à la fin du chapitre, 29 à 45. Luc chapitre 1, verset 29. Alors, si vous voulez suivre avec moi. Alors, Jésus vient, il est dans la synagogue de Capernaum. Là, un homme possédé était là, il l'a libéré. Donc, verset 29, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean. Donc, ils se rendirent, c'est-à-dire Jésus, Simon et André, se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt en parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. C'était le soir après le coucher du soleil parce que vous savez que chez le juif, la journée se terminait à 6 heures du soir. Hein, donc 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Donc c'était le sabbat, ils ne pouvaient pas se déplacer, ils ne pouvaient pas porter quelque chose. Donc ils ont entendu jusqu'à la fin du sabbat. Et donc c'est pour ça que c'est après le coucher du soleil qu'ils se présentent. Parce que là, ils peuvent se déplacer librement. Pour eux, c'est déjà le lendemain. Alors, verset 33, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent! Et il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit: Je veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est en train d'étudier l'évangile de Marc, mais avec un objectif bien précis, c'est voir Jésus-Christ. Donc, on ne va pas répondre à toutes les questions et traiter toutes les choses, mais ce que nous voulons voir, c'est Jésus-Christ tel qu'il est, nous est montré et révélé au travers de cet apôtre Marc. Le verset clé que nous voulons souligner ce matin, c'est ce verset 38, où Jésus répond aux disciples: Allons dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu sorti. Il y a un livre qui a été publié en anglais qui est intitulé The Tyranny of the Urgent. Traduction, c'est la tyrannie de l'urgent. La tyrannie de l'urgent. Oh, il y a aussi un livre en français intitulé La tyrannie de l'urgence. Mais c'est justement Jésus est dans cette situation-là. Nous avons dans ce passage un exemple de la pression qui existe entre le besoin des hommes, le besoin pressant des hommes. Ils sont malades, ils sont souffrants, ils sont possédés, ils ont besoin d'être délivrés. Et d'autre part, eh bien, il y a le ministère que Jésus avait. Il était envoyé pour accomplir un ministère. Alors, il y a ce besoin qui est réel, et puis il y a aussi ce ministère. Et Jésus doit gérer les deux choses. En tant que Dieu, vous dites, mais ça ne devrait pas être un problème. Mais souvenons-nous qu'il était dans un corps. Et que pour être quelque part, il fallait qu'il se déplace. Jésus ne pouvait pas être partout en même temps. Et donc, il est obligé de gérer avec cette limitation, celle que nous avons. Hein, nous ne pouvons pas être partout, nous ne pouvons pas tout faire. Alors quelque part, eh bien, il y a des choix à faire. Il y a des priorités à établir. Et Jésus ressent cette pression. C'est pour vous rassurer aussi que lorsque vous ressentez cette pression, vous pouvez en parler à Jésus dans votre prière. Il comprend, parce qu'il l'a vécu. Hein, vous dites, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas assez d'heures dans la journée. Et s'il y avait plus d'heures, je serais crevé. Je suis crevé déjà. Je ne sais pas quoi faire. Ben, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui parler. Il dit, je te comprends. On va travailler ensemble. Et donc, mais ce que nous remarquons, c'est que dans cette tension qui existe, cette pression qui existe, qu'est-ce que fait Jésus ? Il se retire et il prie. On va revenir là-dessus, mais juste, je vous fais la remarque. Hein, donc, en introduction, il y a les besoins pressants de la souffrance humaine, il y a la mission que Dieu a donnée, et puis Jésus, au milieu de cela, prend le temps de prier. Il raccourcit son temps de sommeil pour prier. Je dis ça en passant. Premièrement, la pression de l'urgent. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, dimanche dernier, Jésus, et quand cet homme dans le synagogue, tout d'un coup, a élevé la voix, il a perturbé la rencontre, et puis il dit, Jésus, je te connais, tu es le Saint de Dieu. Et Jésus a chassé le démon. C'est vrai que Jésus, les gens avaient déjà remarqué que Jésus parlait avec autorité. Et puis ils ont vu que Jésus a confirmé cette autorité parce qu'il a pu donner un ordre à un démon, et le démon a obéi. Mais ce que Jésus ne pouvait pas contrôler, c'est ce que les hommes allaient faire avec cette connaissance. Jésus révèle, et Marc souligne cela, l'autorité avec laquelle Jésus enseigne, l'autorité avec laquelle Jésus peut intervenir. Mais ce que nous constatons, c'est que les hommes ont pris cela. Ils étaient étonnés, mais ensuite ils ont dit, on va s'en servir. Puisqu'il a cette autorité, on va venir avec lui, avec toutes nos maladies. Et tout d'un coup, dans leur esprit, il devient un guérisseur. Et en plus, il est gratuit. Ça, c'est toujours intéressant. Hein? De nos jours, s'il y avait un guérisseur qui se présentait et c'était gratuit, il aurait du monde aussi. Hein? Les hommes n'ont pas changé. Et donc, au lieu de voir en lui le Fils de Dieu, Dieu qui parle au cœur, ce qu'ils ont vu, ils ont vu, le Jésus de Nazareth, si, il a des pouvoirs pour guérir. Alors, on va profiter. Et cette attitude non plus n'a pas changé. Hein, les hommes ont encore cette attitude. Mais vous savez, et souvent on dit, mais si je voyais un miracle, je pourrais croire. Et vous savez que les miracles ne produisent pas la foi. Beaucoup de gens ont vu des miracles à l'époque de Jésus. Mais certains de ceux qui ont vu les miracles, étaient ceux qui ont dit « crucifie-le ». C'est pas parce qu'ils ont vu le miracle qu'ils ont cru. La foi ne vient pas par le miracle. Vous connaissez, souvenez de l'histoire que Jésus a racontée dans Luc, où il dit il y avait un homme riche, et puis il y avait Lazare, le pauvre. Et puis l'homme riche qui se trouve dans le tourment et dit à Abraham, il dit, écoute, envoie Lazare pour avertir mes frères. Et Abraham répond, même si un homme ressuscité des morts, c'est pas pour ça qu'ils croiraient. Ils ont Abraham, ils ont Moïse et les prophètes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. C'est pas parce que je vois un miracle, c'est parce que j'entends et j'écoute la parole de Dieu que la foi se développe. Hein? Donc ne nous laissons pas, les gens disent, mais écoute, si je voyais un miracle, je croirais. C'est pas vrai. On est étonné quand on voit un miracle, mais on ne devient pas croyant. Alors, Jésus ne contrôle pas la réaction des gens et la foule, eh bien, tout d'un coup, le message circule et les gens viennent de partout, de toute la région, et tout le monde est au courant. Et Jésus se trouve devant cette misère humaine, hein, tous ces maladies. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de rentrer dans certains pavillons des hôpitaux, et puis vous voyez les gens dans la souffrance. Et moi, j'ai du mal à supporter parfois. Et Jésus voyait encore plus que cela, parce qu'il les voyait tous en même temps. Et il voit jusqu'à pas seulement la souffrance physique telle qu'on la voit, des bandes ou des boutons ou des choses, mais lui pouvait voir jusqu'à la source, l'origine de ce mal. Et Jésus... Et là, il ne peut pas s'empêcher de voir cette souffrance. Et il sait d'où elle vient. Il sait que ce n'est pas seulement la maladie, ce n'est pas seulement les virus, mais c'est que l'origine de cette souffrance, c'est lorsque le péché est entré dans le monde. En Genèse chapitre 3, parce que le péché est entré dans le monde, la souffrance est venue. Oh, sous toutes ses formes. Que ce soit par la haine, que ce soit par les maladies, que ce soit par les épines qui poussent, que ce soit par le temps qui nous use, la souffrance est là. Et quand le lépreux est venu voir Jésus et lui a dit, si tu veux, tu peux me guérir. Pour Jésus, c'est pas seulement il a dit d'accord. Non, Jésus fut d'abord ému de compassion. Vous avez remarqué ça? D'abord, quand il est ému de compassion, il le sent lui-même. Il sympathise, il empathise, il devient un avec la souffrance de l'homme. Il sait qu'il est venu, c'est pour mourir. Il nous dit dans Ésaïe 53, il nous dit qu'il s'est chargé de nos souffrances. Hein, c'est pour nous délivrer, de nous guérir. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il sait, mais c'est encore plus loin, c'est le péché. Et il sent, il voit, et cet homme lui parle. Et Jésus lui dit, tu sais, je veux, sois pur. Mais il a dit, mais en même temps, Jésus, et c'est là où on voit cette tension, il lui dit, écoute, s'il te plaît, ne dis à personne. Parce que je ne veux pas la réputation d'un guérisseur. Mais je veux que tu sois soulagé, que tu sois délivré. Mais cet homme guéri, il est tellement content, poule pasteur. Et cet homme a été partout, il leur a dit, vous savez, j'étais lépreux, et Jésus il m'a touché, et comme ça. Vous comprenez son enthousiasme, vous comprenez pourquoi il a parlé. Mais tout d'un coup, il y avait du monde qui venait de toute la région, qui venait voir Jésus. Et Jésus était obligé, vous voyez qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte? Parce qu'on ne fait pas comme Jésus a dit. On crée des complications supplémentaires. Et tout d'un coup, Jésus ne peut plus circuler dans les villes, il est obligé de se retirer dans les campagnes, de se mettre loin pour avoir le ministère qu'il veut. Vous savez, des fois, on se dit, on veut bien faire, c'est sûr. Il n'y a personne qui veut mal faire avec Dieu. On veut tous bien faire. mais des fois on distrait. Et on distrait du message. Et il y a des fois, les chrétiens, on se rassemble, et puis alors on fait soit guérison, soit on fait de ceci. On dit, voilà ce que Jésus peut faire si tu viens à Jésus. Il te soulage, il te donne du travail, il te donne la guérison, il te donne une femme, il te donne tout ce que tu veux. Si tu veux une voiture bleue, il te donne la voiture bleue. Si tu le... Mais tout cela, et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de présenter un côté de Jésus qu'il ne veut pas. Il ne veut pas celui qui répond à tous les petits besoins, tous les petits désirs de chacun. Il peut le faire. Et dans un sens, il le veut. Mais ce n'est pas son ministère principal. Il veut prêcher la parole de Dieu. Et nous devons nous souvenir de cela aussi. Pour ne pas distraire et puis attirer du monde et attirer l'attention sur ce qui n'est pas ce que Dieu veut faire. Il veut surtout prêcher la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a moins de monde, mais c'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut guérir. La guérison, par exemple, de la belle-mère de Pierre, de Simon-Pierre, eh bien là, ça se passe comme Jésus voudrait. On arrive dans la maison... On lui dit, Jésus, tu sais, la belle-mère de Simon, là, est malade, très malade. Elle a la fièvre, elle ne peut pas se lever, et nous ne savons pas depuis combien de temps. Dans tous les cas, elle a du monde dans la maison et elle ne peut pas se lever. Donc, vous savez qu'elle est dans l'hospitalité orientale. Et il faut vraiment être en mauvais état pour ne pas se lever pour servir les invités. Et on en parle à Jésus. Il va la voir. Il prend la main, il dit là. Et vous savez ce qui arrive? C'est que c'est pas seulement qu'elle est guérie, parce que il nous dit la fièvre. Bah, nous, on sait la fièvre, c'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme d'une maladie. Jésus, il sait quelle est la source de sa fièvre. Il traite de la source de la fièvre. Mais vous savez tous que si on a eu une forte fièvre pendant un temps, eh bien, on ne se lève pas tout de suite, parce que ça épuise la fièvre. Mais ce qui est extraordinaire avec les miracles de Jésus, c'est que non seulement il guérit le mal, mais en plus il restaure dans l'état. Et tout d'un coup, elle, c'est comme si elle n'avait jamais été malade, elle se lève et elle sert. 5 hommes dans la maison. Mais vous, les épouses, vous en savez plus combien c'est de travail que nous, les hommes. Hein, parce que vous le faites plus souvent. Mais 5 hommes, tout d'un coup, qui sont là, eh ben, elle sert. Mais elle dit rien. Elle se lève, elle sert. Vous savez, là, les choses se passent comme Jésus aime. Il intervient, il soulage, mais c'est pour que nous puissions le servir. Ce n'est pas pour qu'on puisse aller faire de la publicité. Et combien de fois vous avez été là et on fait venir quelqu'un, dit « Tiens, raconte comment Dieu t'a guéri, ceci, cela. » Non. Sers le Seigneur. S'il t'a restauré ta santé, s'il a soulagé, s'il a arrangé une situation, s'il a soulagé ton esprit d'un tracas, eh bien c'est pour que tu le serves. Ce n'est pas pour faire du bruit sur ce que moi, ma Dieu m'a béni moi-même. Et puis tout d'un coup, l'attention est sur moi et plutôt que sur lui. Il dit, non, il me soulage, c'est pour que je serve. Alors oui, souvenons-nous que Jésus n'est pas, Jésus guérit, mais Jésus n'est pas un guérisseur. Hein, dans le sens courant du mot. Il a dit à Zachée, il a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a dit, voilà ma mission. Chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu pour guérir. Vous savez, c'est extraordinaire, je dis ça entre parenthèses, mais vous savez, Jésus, il aurait pu, si vraiment il voulait guérir les gens, et il est Dieu, il aurait pu dire un mot, et tous les gens de la Palestine seraient guéris le même jour. Et puis ça y est, après, on est tranquille. Et puis les gens, ils ne savent pas d'où ça vient, ni comment, ni rien du tout. Moi, je me sens bien, moi. Bien justement, hier soir, j'ai prié un tel, là, j'ai été voir celui un tel, et puis chacun applique et donne, remercie qui il veut, son Dieu, son saint, son... tout le monde. Il ne peut pas le faire. Les hommes font des bêtises avec ce que Dieu fait. Et Dieu ne cherche pas... sa préoccupation, ce n'est pas le mal. C'est aider la personne. Vous savez, on regarde dans ce passage et on voit, voyez, Jésus s'est levé tôt le matin, puis il est sorti pour prier. Et puis Simon et André et Jean et Jacques, ils se réveillent le matin, il y a déjà du monde devant la porte. Ils veulent être guéris, ils sont en train d'attendre, on entend le bruit devant la maison, les gens qui parlent, qui se bousculent et tout, hein, vous pouvez imaginer, climat de souk. Hein. Et puis, et où est Jésus? Oui. Où est-ce qu'il est passé? Et les gens, ils disent, où est Jésus? Mais il n'est pas là, on ne le trouve pas. Et alors, ils vont le chercher. Et ils le cherchent partout, ils le trouvent dans un endroit, il est en train de prier. Alors, et vous savez ce qu'ils disent? Jésus, mais... Moi, ça, c'est mes mots, hein. C'est mes mots. Mais je crois que je transmets leur pensée. Jésus, il y a plein de monde. Ils sont malades, ils t'attendent et toi tu es en train de prier, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous savez pas combien de fois nous avons pensé la même chose avec Dieu? Dis Dieu, tu as vu où ce que je suis, tu vois dans quel état je suis, et puis toi, c'est comme si ça te touche pas. On l'a pensé, on l'a pas dit, parce que ça fait pas très chrétien. Mais, attendez, je remonte, il n'y a pas loin dans le même chapitre. C'est qui le formateur? C'est les disciples ou c'est Jésus? Quand Jésus a dit « Suivez-moi », il a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est lui le formateur. C'est moi, je vais vous apprendre à faire la pêche des hommes pour Dieu. Et là, c'est eux qui sont en train de faire des leçons à Jésus. Vous vous rendez compte? Vous savez, ce ne sera pas la première fois que les chrétiens le font et ce n'est pas la dernière fois, hein. Mais parfois, nous avons envie de dire à Jésus comment faire. Il dit, regarde, il y a des gens, il y a plein de monde devant la maison, et toi, tu es ici. Et Jésus, il répond, il ne se justifie pas, mais il dit, vous savez comment il répond à « tous te cherchent ». En fait, qu'est-ce qu'il cherchait? Il ne cherchait pas Jésus. Il cherchait son pouvoir de guérison. Ce n'est pas vrai que tous te cherchent. Les disciples ont pris ça, tous te cherchent. Mais Jésus a compris, il ne me cherche pas moi. Tout ce qu'il cherche, c'est un soulagement. Et après, quand tout va bien, ils continuent leur chemin, un peu comme vous vous souvenez, les 10 lépreux. Hein, il n'y en a qu'un seul qui est revenu dire merci. Les 9 autres, ils ont continué le chemin. Et ça y est, ils avaient ce qu'ils voulaient. Et Jésus répond à cette parole, tous te cherchent, il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela que je suis sorti. Il a dit, mais il ne faut pas que j'oublie ma mission en première. Oui, je peux guérir du monde en passant, mais j'ai une mission. Il avait commencé, on avait vu ça déjà au début du chapitre, il dit, sa mission, c'était de dire, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était au verset 15. Et vous savez, Jésus, quand il voit un malade devant lui, il ne bande pas l'orteil alors qu'il y a une hémorragie interne. Et dans un sens, c'est Jésus, quand il vient, il aurait pu bander tous les petits bobos de tout le monde, mais ça, c'est bander l'orteil, alors qu'il y avait une hémorragie interne qui garantissait la mort de tous. Et c'est le péché. Et Jésus dit, mais il faut que je m'occupe du problème le plus sérieux. Et c'est pour ça qu'il faut que je reste fidèle à ma mission et que j'aille jusqu'à la croix pour mourir, pour régler ce problème. Vous savez, nous-mêmes, nous n'apprécions pas être connus pour ce que nous ne sommes pas. Hein, quelqu'un vous dit, vous êtes voleur. Non, mais... Il me dit, non, mais c'est un menteur. On n'aime pas que les gens nous collent quelque chose. Même si j'ai menti une fois, on ne veut pas qu'on me traite de menteur. Ou même si une fois j'ai triché un petit peu, à être un tricheur. Ou parce qu'un jour je ne me suis pas réveillé avant 10 heures, ah, il est paresseux. Non mais, bon, ça peut arriver hein, qu'on ne se réveille pas avant 10 heures. Il faut savoir ce qui s'est passé les jours avant. On n'aime pas que quelqu'un nous traite de manipulateur. Même si on manipule tous un petit peu quand on peut. On n'aime pas que les gens nous collent une étiquette, celui-là, il est susceptible. Ça ne fait pas bien. Même si je suis sensible. Et Jésus ne veut pas qu'on lui colle des étiquettes non plus. Ni de guérisseur, ni de celui qui nous tient la main quand on a peur, ni de celui qui pense nos petits bobos, ni de celui qui nous écoute à longueur de journée et ne se lasse pas. Mais ce n'est pas vraiment son rôle. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Il est notre Maître. Il veut nous conduire. Et puis d'autre part, Jésus est l'exemple de celui qui est fidèle à sa mission. Sommes-nous fidèles à notre mission ? Jésus, avant de quitter la terre, a dit « Je vous envoie l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. » Notre mission principale, c'est d'être des témoins par notre vie, par nos paroles, par nos valeurs, par notre manière d'agir et de réagir et de ne pas agir. Mais sommes-nous fidèles ? Remplissons-nous notre mission ? Savons-nous pourquoi nous sommes là ? Si j'ai des poissons dans un bassin à la maison, mais les poissons n'ont aucune idée pourquoi ils sont là. Ils sont là et ils essayent de vivre. Je pose pas la question, je tracasse pas. Mais nous, on a quelque chose, c'est pas seulement un os hein, sur les épaules. Il y a un cerveau là-dedans. Et puis en plus, en nous, il y a une conscience de notre existence. Et une conscience que Dieu existe. Et qu'est-ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Et est-ce que je suis en train d'accomplir ma mission ? On accuse parfois certaines cultures, on dit, pour eux, la femme, c'est pour faire des enfants, c'est tout. Et oui, mais... Et nous ? Et moi ? Je suis là pour quoi ? À Paris, on dit, métro boulot dodo. C'est vraiment pas ambitieux comme vie. C'est fatigant. Dès qu'il y a des vacances, les Parisiens quittent la ville parce qu'ils n'aiment pas ça. L'être humain n'est pas satisfait avec uniquement cela. Il veut une vie pleine. Jésus a dit, je sais pourquoi je suis venu et je veux accomplir ma mission. Alors, d'une part, il y a ce que les hommes demandent de lui. D'autre part, il y a ce que Dieu lui a confié comme mission. Et Jésus ressent cette pression, mais il n'y a personne d'autre qui la ressent. Finalement, Jésus est dans la solitude avec son fardeau. Les disciples ne comprennent pas. Les gens, ça, que Jésus n'ait pas beaucoup dormi cette nuit-là, ils ne se sont même pas posé la question. Ils sont déjà à la porte, ils veulent être guéris. Hein, c'est ce sentiment chez l'être humain, donne-moi, 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 moi le premier, puis après on verra pour les autres. Et vous savez, quand vous êtes entouré par des gens qui cherchent que leur propre intérêt, vous vous sentez seul. C'est une terrible solitude. Et Jésus, il se lève de bon matin. Et puis, il nous dit qu'il va dans un lieu désert. Il ne va pas dans le lieu désert pour être seul, mais il va dans le lieu désert parce qu'il est seul. Parce qu'il vit la solitude. Et peut-être que vous aussi, hein, certainement que tous nous l'avons ressenti à des moments où vraiment on se sent seul. Même seul au milieu de la foule. Même seul au milieu d'un supermarché. On se sent seul. Je suis là, je ne suis pas là, ça gêne personne. Personne ne pense à moi. Et puis vous avez vos soucis. Je vais appeler quelqu'un, moi je vais l'embêter. Je vais parler à celui-là. Ah, il a autre chose à faire. Et je suis là tout seul avec ma préoccupation. Et je me sens seul. Vous savez ce que Jésus a fait ? Eh bien, il a été prié. Il a été se retirer. Et il a été prié dans un lieu désert. Oh, il a fait justement ce qu'il avait enseigné hein, sur le sermon sur la montagne. Vous vous souvenez ? Il avait dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, tu trouveras ton Père qui est dans le secret. Eh bien, il y a plusieurs manières d'entrer dans une chambre et de fermer la porte. C'est de se retrouver tout seul avec lui, avec le Père Céleste. C'est le temps de prière intentionnée. La prière intentionnée. Il y a un livre chrétien, si vous avez l'occasion de le lire, hein, la prière intentionnée de Don Carson, la prière intentionnée. Mais la prière intentionnée, ça veut dire c'est pas celle que je circule et tout d'un coup, oh Seigneur, aide-moi ceci, Seigneur, voilà. C'est les prières rapides de besoin, hein, comme l'enfant qui maman. Mais après, il y a la prière intentionnée, il y a celle que je prévois, je pense, je l'organise et je me mets dans une situation où je peux prier. Ça, Jésus, il s'est levé, le soir certainement, il s'est couché, et puis après il s'est dit, je vais me lever demain matin, et je vais faire, il a dit à personne, je vais sortir, et je sais où je vais aller à un endroit, les gens ne me verront pas, et là je pourrai prier, Père, lui me comprend, lui, je vais lui dire tout ce que je ressens. Vous savez, Jésus, en fait, vous regardez les moments de prière, toujours, il va et se retire. Il se retire sur la montagne pour prier. Il se retire dans le désert pour prier. Il est dans le jardin pour prier. Et c'est toujours dans ces moments difficiles où il y a toute la pression et puis en même temps, il vit la solitude. Vous cherchez dans votre Bible. Pensez à tous les moments où il a prié. Je pourrais même vous donner une liste de passages où il a prié. Mais toujours, c'est des moments où il se trouve parfois avec du monde et puis il faut qu'il s'éloigne. Parce qu'il faut qu'il parle à Dieu, parce que les gens ils comprennent rien du tout. Vous savez, ça peut nous arriver, et si ça ne vous est pas arrivé, vous n'êtes pas vieux. Hein, parce que ça nous arrive à tous. Et on a besoin. Et on a besoin de trouver ce temps. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous faites en ces moments de solitude ? Vous savez, j'ai comme l'impression, je ne sais pas si vous avez été jamais mis dans un centre commercial un vendredi soir ou un samedi quand il y a plein de monde, et puis restez là et rien que regardez les gens, rien que les regarder passer. Ou bien d'être dans le magasin et puis regarder les gens qui circulent comme ça. Voilà, et puis regarde ici, et puis regarde là. Vous savez, j'ai comme le sentiment, hein, j'ai pas fait de calcul, mais j'aurais le sentiment qu'il y a à peu près 10% de ces gens-là, c'est des gens qui ne savent pas quoi faire. Ils sont seuls. Et alors, je vais aller au centre commercial. Il y a des gens qui vont comme ça, parce qu'ils sont seuls. Il y en a d'autres, on allume la télé à fond. Le programme, il ne m'intéresse pas, mais j'allume à fond, rien que pour ne pas me sentir faire du bruit. Vous savez, parfois, une manière de fuir la solitude, c'est le bruit. Ou bien, il y en a, pour ne pas sentir cette solitude, eh bien, on invite plein de monde dans la maison. Et puis, dans l'activité et tout ça, eh bien, les gens, ça se sent pas, ça fait un peu oublier les choses. Mais est-ce vraiment ça, hein? D'autres réagissent à la fuite, c'est l'introversion, hein, devient, il rentre en lui-même, se refoule. Puis vous savez, tous les gens qui rient beaucoup ne sont pas des gens qui sont fortes. Souvent, c'est des gens seuls. Hein, ça couvre. Il y a le rire parce qu'on est heureux, puis il y a le rire parce qu'on veut cacher. Hein, c'est le camouflage. Puis alors les gens, ils écoutent la blague, ils écoutent ceci, et ils ne font pas attention à moi. C'est une manière de fuir aussi. Alors, ceux qui sont extravertis ne sont pas forcément des gens qui sont épanouis, et ceux qui sont introvertis, pas forcément des gens qui sont épanouis non plus. Et vous savez, ce que Jésus a fait pour garder une pensée saine, eh bien, il a pris le temps de s'adresser à son Père céleste. Et c'est très important d'avoir cette réaction. Si c'était bon pour Jésus-Christ, c'est bon pour nous. Vous savez, et pour avoir ce recueillement avec Dieu, avec le Père Céleste, eh bien, il faut être réconcilié à lui. Il faut avoir les choses en règle avec lui. Et passer ce temps avec lui. Dire, c'était Martin Luther, je crois, le réformateur qui a dit, j'ai tellement de choses aujourd'hui à faire que il faudra que je prie un peu plus aujourd'hui. J'ai tellement de choses à faire, il faudra que je prie un peu plus. C'est une manière d'être plus efficace quand on est enfant de Dieu. Souvent la réaction c'est « Ah, j'ai tellement à faire, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de prendre ce temps seul avec Dieu où je prie, je lis ma Bible, je chante deux, trois cantiques que j'aime bien. Et puis tout d'un coup je suis avec le Seigneur. Et j'oublie tout ce qui est autour de moi. J'ai fait le vide et je suis avec mon Seigneur. Si vous avez, c'est le sentiment. Vous avez déjà vu un bébé? On en a ici. Vous avez vu le bébé après qu'il vient de téter avec maman? Il a le ventre plein, il est là avec maman. Et puis, j'aime bien ce moment-là de voir une maman. Je ne veux pas qu'elle me voie, mais je vois de loin comme ça. Et je vois, elle est là. Il vient de téter, il est content. Et puis il y a bébé et maman qui se regardent. Et ils se font des sourires. Et puis ils oublient tout ce qu'il y a autour. Il n'y a que eux, ça dure 3 secondes. Hein. Mais il y a un moment d'intimité entre les deux. Eh bien, c'est ça que nous voulons rechercher avec Dieu. Ce n'est pas nécessaire que ça soit des heures. C'est le fait que ça soit intense. C'est un moment, Seigneur, je suis bien avec toi. Tu me comprends? Et même si rien ne se dit, il n'y a que des sourires. Parfois, je dis, prenez un thé avec Dieu. Vous buvez le thé, lui, mais vous êtes en train de penser à lui. Vous avez un moment avec lui. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est comme ça qu'il a pu gérer les tensions qui existent. Réelles, mais elles sont là. Mais pour avoir cela, bien sûr, eh bien, il faut être enfant de Dieu. Il faut avoir réglé la question des péchés. Le meilleur chose de faire, c'est de venir à Dieu. Dire, Dieu, voilà, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais mon péché. Je veux que tu me pardonnes. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, que tu me donnes la paix, puisque tu es le prince de la paix. Je veux la paix avec toi, afin que je l'aie avec ceux qui sont autour de moi. Et ensuite, lui nous aidera à gérer cette vie ensemble. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous remercions pour ton enseignement. Pratique pour notre vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui est à 2000 ans. C'est réel, c'est des principes vrais pour nous aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à les extraire et puis ensuite, cette semaine, à les mettre en pratique. À vivre pour toi. Que nous soyons maman, que nous soyons mari, que nous soyons enfants, étudiants, célibataire, Seigneur, nous avons tous des moments de solitude, des moments où nous avons des fardeaux, nous sommes seuls avec notre préoccupation. Même s'il est imaginaire, il est vrai pour nous. Seigneur, que nous puissions venir à toi et prier et avoir ce moment intense avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Père, que nous prions. Amen.